La première.
Au positif,
Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un manuel écrit essentiellement par des Belges, puisqu'ils sont trois auteurs. Et parmi ces trois auteurs, il y a Martin Desailly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous parce que vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute, professeur à l'université de Namur et surtout l'un des co-auteurs de cet ouvrage. Nous rejoindra également Bernadette Grosjean, qui est médecin psychiatre spécialisée dans le trouble borderline. Elle enseigne la psychiatrie à l'université de UCLA aux États-Unis. Elle est d'ailleurs avec nous via Skype. Bonjour Bernadette Grosjean.
Bonjour Véronique.
Bienvenue parmi nous et merci d'être restée à veiller fort tard pour nous parler de ce manuel du borderline paru aux éditions Erol, dont on va parler. Le troisième auteur, c'est Nader Perrou, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Cela dit, on va surtout parler de ce manuel parce qu'il offre de très belles perspectives en matière d'espoir et de guérison pour le borderline, un trouble très méconnu encore aujourd'hui du grand public et pourtant assez présent dans notre monde actuel. On parlera donc de ce trouble, des thérapies qui permettent aujourd'hui de s'en sortir, puisque l'on peut s'en sortir, et c'est l'un des principaux attraits de cet ouvrage, en plus d'être complètement didactique et parfaitement lisible de tous. Il ne s'agit pas d'un langage psychiatrique un peu fermé, non, s'il est très ouvert à la lecture, même assez agréable à lire et surtout très enrichissant, avec beaucoup d'enseignements à en retirer. On en parle donc avec vous aussi au 02 737 26 06. Vous pouvez envoyer vos messages par SMS au 60 31 ou bien contacter également le site lapremière.be. Vous cliquez sur ma photo et vous remplissez la petite fiche.
ADN.
Lionel Francard.
L'autopsie des news. Bonjour Lionel.
Bonjour Véronique. Bonjour à tous.
Avec demain, c'est la journée mondiale du rein. C'est vraiment une semaine très chargée. C'est la semaine de ceci, la journée de celle-là. Mais c'est demain, la journée mondiale du rein. Mais on vous en parle déjà aujourd'hui, Lionel.
Oui, car il faut s'y préparer. On va tout de suite la célébrer en commençant par boire un grand verre d'eau, ce que vous ferez demain matin aussi, dès le lever. Il faut boire généralement entre 1,5 litre et 2 litres de liquide, pas nécessairement de l'eau, mais de liquide en tout cas, par jour pour une bonne régulation des reins. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 600 millions de personnes dans le monde souffrent d'une certaine forme de maladie rénale chronique et ce nombre de personnes atteintes devrait augmenter de 17% au cours de la prochaine décennie. C'est peut-être vous, moi ou quelqu'un d'autre, une maladie d'insuffisance rénale qui est aujourd'hui reconnue donc comme une question de santé publique au niveau mondial. Mais si elle est détectée à temps et gérée de façon appropriée, eh bien la détérioration de la fonction rénale peut être ralentie, voire même enrayée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette action, cette journée demain mondiale du rein, de sensibilisation autour de nos reins, car nous sommes encore trop nombreux à sous-estimer le rôle vital de nos reins. Donc, petit rappel de la fonction rénale avec Gaëtan Clairbeau, si vous le voulez bien, qui est néphrologue aux Cliniques de l'Europe. À quoi nous servent nos reins?
Les reins ont principalement une fonction de filtre, ils vont filtrer le sang et éliminer toutes sortes de déchets via les urines, des déchets qui sont soit ingérés par notre alimentation ou qui sont produits par la dégradation des protéines par exemple dans notre corps. Et un des déchets le plus connu, c'est l'urée qui donne cette couleur jaune à l'urine, mais il va éliminer également des sels minéraux, des médicaments, et il va également éliminer l'eau qu'on boit en grande partie. Alors il a aussi d'autres fonctions qui sont un petit peu moins connues, mais donc il intervient dans la régulation de la tension artérielle, il va éliminer l'acidité de notre corps, et enfin il a une fonction qu'on appelle endocrine où il produit de l'EPO, ce que parfois on utilise à mauvais escient pour augmenter ses performances. En fait, c'est nos reins qui produisent cet EPO.
Voilà, ils en font des choses, nos reins. Alors nos reins vieillissent tout comme nous, tout simplement. Il faut savoir qu'environ une personne sur 10 souffre d'un certain degré de MRC, donc la maladie rénale chronique. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que cette maladie devient plus fréquente avec l'âge, puisque c'est vraiment comme les reins vieillissent. Mais tout de même, elle peut survenir à tout moment de notre vie. Elle peut toucher des personnes de tout âge, de toute race. C'est certain qu'il y a des personnes plus à risque, comme nous l'explique le néphrologue Gaëtan Clairbeau.
Il y a deux grandes causes de maladies rénales. Les deux plus fréquentes, ce sont l'hypertension et le diabète. Et donc, on a une augmentation récemment du nombre de gens qui sont atteints d'insuffisance rénale terminale. essentiellement parce qu'on a un vieillissement de la population et aussi parce que le diabète et l'hypertension, mais principalement le diabète, touchent de plus en plus de personnes.
Mmh, donc l'important, c'est de mieux dépister ça, j'imagine, avant d'en arriver à ces extrêmes et ces complications. Alors les enfants, ils sont dépistés par le biais d'une analyse d'urine, souvent en médecine scolaire. Chez les adultes, comment ça se passe ?
Alors chez les adultes, on ne dépiste pas tout le monde. Il n'y a pas de recommandation de dépistage systématique de toute la population. On va plutôt cibler les groupes à risque. Donc les diabétiques et les hypertendus normalement vont être suivis et on va vérifier leurs fonctions rénales et leurs analyses d'urine, mais aussi des gens qui ont eu des maladies cardiovasculaires ou des gens qui ont dans la famille des maladies rénales, parfois il y a des histoires familiales rénales, ou les personnes âgées de plus de 70 ans, puisqu'on sait que l'insuffisance rénale touche principalement les personnes de plus de 70 ans.
Mmh. Est-ce qu'il y a des symptômes en particulier, comme des douleurs qui devraient peut-être nous interpeller ou...
Je suis content que vous posiez cette question parce que c'est quelque chose qu'on confond souvent et on a d'ailleurs souvent à notre consultation des patients qui arrivent en disant « j'ai mal aux reins, docteur ». En fait, les reins ne font le plus souvent pas mal, sauf si on a un problème de pierre aux reins ou d'infection rénale, mais sinon une insuffisance rénale, ça ne fait pas mal. Et donc, quand on a mal aux reins, souvent, c'est plutôt la colonne vertébrale, en fait, qui fait mal. Mais donc, on a peu de symptômes de l'insuffisance rénale. On peut avoir parfois une fatigue accrue, mais c'est déjà souvent alors un stade relativement avancé de l'insuffisance rénale, ou des pieds qui gonflent. Ça peut être aussi un symptôme d'alerte, mm-hmm, ou une tension artérielle qui commence à monter. À ce moment-là, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment par les analyses de sang et d'urine qu'on fait le diagnostic.
Alors bien sûr, il ne faut pas se ruer dans les salles d'attente des néphrologues. Il faut d'abord évidemment passer par son médecin généraliste qui lui peut mettre en évidence une insuffisance rénale. Faire d'abord un premier suivi et puis si ça se complique, évidemment, vous envoyer vers les spécialistes.
Bah, j'imagine qu'on peut parler un peu de prévention, qu'il y a moyen de faire de la prévention en matière d'insuffisance rénale.
Oui, alors, bon, je le disais, hein, boire bien sûr, oui, une quantité respectable, 1,5 litre, 2 litres de liquide, puis c'est simplement l'hygiène de vie. Il peut y avoir un suivi avec son médecin quand ça devient vraiment compliqué ou qu'il y a déjà une insuffisance rénale qui est détectée. Bon, c'est des exercices physiques, c'est limiter l'apport en sel dans ses repas, ne pas consommer trop de certains médicaments comme les antidouleurs ou les anti-inflammatoires qui ne sont pas idéales pour le rein. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en consommer, mais il faut vraiment faire attention, limiter sa consommation, ne pas fumer, avoir une alimentation équilibrée et puis faire contrôler de temps en temps sa glycémie et sa tension artérielle, alors, comme il sera proposé demain.
C'est ça, on
demain
va avoir des tests quand même, j'imagine, pour pouvoir, lors de cette journée, tester éventuellement ses reins, sa bonne fonction des reins.
Voilà, des tests gratuits qui seront proposés dans certaines cliniques, notamment sur le site de Sainte-Élisabeth à Uccle, durant toute la journée, et demain dans la matinée aux cliniques Saint-Michel. Alors c'est une équipe médicale, des infirmières qui seront là pour vous proposer ces tests. Ce sera l'occasion aussi d'échanger, de pouvoir discuter de toutes ces problématiques, de mieux vous informer. Il y aura également une diététicienne qui sera sur place dans ces cliniques spécialisées en dialyse pour évidemment parler de toutes ces questions d'alimentation spécifique. C'est par là aussi qu'on peut agir sur la bonne santé de nos reins. Vous pourrez aussi observer un rein géant et un parcours didactique, ainsi que, bon, on va le dire, une petite affiche à gagner du caricaturiste Dubus réalisée spécialement à l'occasion.
On insiste quand même très fort sur le fait, et c'est ce que fera la journée aussi, que trop de personnes sont inconscientes des soucis rénaux qu'ils peuvent avoir, puisqu'il n'y a pas de douleur, c'est ce qu'il disait ce médecin.
C'est ça, c'est une maladie silencieuse, et donc on méconnaît vraiment trop la maladie rénale. Ça peut avoir des degrés vraiment divers, ça peut être minime, mais comme on ne le sent pas, on ne s'en doute pas, et malheureusement, c'est ce que disait le docteur Clairbeau, c'est qu'il y arrive encore trop de personnes avec vraiment une maladie rénale en phase terminale. Ça sous-entend qu'il faut des dialyses. Donc ça, c'est des traitements très très lourds. Avant d'en arriver là, le mieux, c'est vraiment d'avoir un contrôle régulier, surtout si on est hypertendu, si on est diabétique. Vraiment, essayer de vérifier ça de temps en temps, avec l'âge aussi. Ça ne sera pas de trop pour pouvoir anticiper sur ces maladies. Et puis, buvez bien de l'eau.
Oui, exactement. Et n'hésitez jamais à inviter vos enfants à boire, ils ont tendance à oublier qu'ils ont soif. Ça ne les intéresse pas, ils préfèrent jouer et plutôt mourir que d'interrompre son jeu. Donc n'hésitez pas à les inviter à boire. Je vous rappelle que lors des derniers tests qui avaient été effectués, on avait quand même démontré à quel point beaucoup d'enfants aujourd'hui se retrouvaient en manque d'eau et de liquide. Donc n'hésitez pas à prendre vous-même les devants pour ce faire. Il est 11h12, on se retrouve dans quelques instants. On vous parle du manuel du borderline dans notre dossier du jour avec nos invités et vos questions éventuelles au 02 737 26 06. Témoignages également qui sont les bienvenus. Vous pouvez également utiliser le SMS au 60 31.
Au positif.
Belle journée.
On vous parle dans notre dossier du jour du manuel du borderline. C'est paru aux éditions Erol, écrit par Martin Desailly, Bernadette Grosjean et Nader Perrou. Bernadette Grosjean et Martin Desailly sont nos invités aujourd'hui. Ils seront donc avec nous pour répondre à vos questions et surtout offrir ce très joli message d'espoir quant aux personnes qui sont atteintes de ce trouble particulier, encore méconnu et souvent encore peu reconnu d'ailleurs par certains professionnels. On en parle donc, mais aussi pour leur entourage, les familles qui accompagnent, qui jouent souvent un rôle extrêmement important, à la fois dans la maladie, mais aussi dans la guérison et dans le processus de guérison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de ce trouble du borderline avec des outils aujourd'hui qui sont bien connus, qui sont maîtrisés également et qui sont à disposition. Ce livre est parfaitement lisible, comme je le disais. Il est à destination à la fois des professionnels, mais surtout du grand public intéressé et touché, ou tout simplement voulant s'enrichir par rapport à ce trouble si particulier. On parle pour l'heure de l'autopsie des news avec Lionel. On va parler cauchemars. Bah forcément le sujet, mais quand même on parle cauchemar parce qu'on parle des cauchemars persistants en fait.
Oui, c'est ça, qui pourrait être l'annonce de troubles psychotiques à l'âge adulte. Alors oui, les cauchemars, c'est un phénomène tout à fait courant hein, chez les jeunes enfants. Leur incidence tend à diminuer naturellement avec l'âge, mais leur répétition ainsi que les terreurs nocturnes à l'adolescence pourraient, selon une étude américaine, tripler le risque de troubles psychotiques. On entend par là, enfin c'est nombreux hein, les troubles psychotiques, je ne vais pas tous les citer, mais troubles de l'humeur, troubles schizophréniques, idées délirantes, discours désorganisés. Alors, pour aboutir à cette conclusion, et même à une réflexion quelque part, hein, les chercheurs de l'université de Warwick, c'est eux qui ont travaillé là-dessus, ont suivi 6700 enfants de deux sexes jusqu'à l'âge de 12 ans. Leurs parents aussi ont été questionnés sur la qualité du sommeil de leurs enfants. Et à la fin de l'étude, eh bien, les auteurs ont demandé aux jeunes participants s'ils vivaient des expériences psychotiques de type hallucination, délire ou pensée paranoïaque.
Et les résultats sont assez étonnants, me semble-t-il.
Oui, alors ils nous disent que 37% des enfants faisaient des cauchemars de manière répétée pendant plusieurs années. Ça, c'est quand même, je trouve, assez étonnant. Bon, ils ne disent pas s'ils ont été suivis ou oui, pas. Hein. Ce sont des simples constats.
Mais si c'était toujours les mêmes cauchemars.
Non plus, non. Oui. Je n'ai pas l'analyse en profondeur des détails, oui, mais voilà, ce chiffre est là. 1 sur 10 en moyenne vivait des terreurs nocturnes et 47 sur 1000 avaient vécu des troubles psychotiques. Ceux qui faisaient des cauchemars répétitif au-delà de 12 ans était 3,5 fois plus exposé que les autres à des troubles mentaux, et ceux qui vivaient des terreurs nocturnes doublaient encore ce risque. Alors les scientifiques n'expliquent pas la cause du lien entre les cauchemars et les troubles psychotiques. De nouvelles recherches s'imposent, ils doivent approfondir tout cela, mais en attendant, eh bien, elle vient rappeler en tout cas l'importance de l'hygiène du sommeil pour l'enfant. Les enfants, idéalement, doivent se coucher à des heures fixes, éviter de voir des films anxiogènes en soirée et ne pas regarder l'ordinateur la nuit. Ça, c'est des simples conseils qu'on aime répéter aussi de temps à autre dans l'émission.
Et ne pas forcément projeter ce qui est anxiogène pour nous, pour ce qui pourrait être anxiogène pour les enfants, parce qu'ils ont leur univers et parfois des choses banales peuvent les toucher ou les atteindre plus particulièrement.
Aussi, être à l'écoute, en fait, hein, des cauchemars, des angoisses de leurs enfants. Je pense que ça, c'est une bonne chose aussi.
Martin Desailly, un commentaire sur les cauchemars persistants et le lien avec les troubles psychiques.
Mais les cauchemars sont finalement une forme de rêve, oui, et on rêve tous toujours beaucoup, et puis les rêves font partie intégrante de processus de régulation aussi des émotions. Donc ce n'est pas forcément toujours quelque chose à supprimer que d'avoir des cauchemars. Alors, c'est clair que ça peut être parfois lié à plus d'expression, de pénibilité, de souffrance pendant la journée, comme du stress, de la dépression ou de l'anxiété, mais ça peut toutefois être tout à fait naturel d'avoir des cauchemars de temps en temps. Ça permet de réguler ses émotions, de métaboliser des choses qui sont pas forcément métabolisables facilement pendant la journée. On en profite de le faire pendant la nuit quand on est dans un environnement sécurisé dans lequel il ne peut pas y avoir trop de conséquences, puisqu'on est immobilisé dans le sommeil et que, comment dire, on peut recréer un monde dont on pourra reparler le lendemain avec ses parents, par exemple.
Quand on s'en souvient, ce qui n'est pas toujours le cas pour les enfants non plus, d'ailleurs.
Tout à fait.
Bernadette Grosjean, un commentaire sur cette information ?
Non, je pense que Martin a bien fait le résumé. C'est au milieu de la nuit ici, moi je suis réveillée au milieu de mes rêves.
J'espère que nous ne ferons pas partie des cauchemars non plus. En tout cas, dans quelques instants, vous interviendrez dans l'émission, bien sûr, pour nous parler du manuel du Borderline, qui est un manuel qui vient d'être édité aux éditions Erol. Vous êtes trois auteurs, trois grands psychiatres reconnus pour l'avoir écrit. Vous faites un très joli point sur cette maladie, qui est une vraie maladie. On a mis longtemps à considérer qu'il s'agissait d'une vraie maladie, mais on peut aussi en guérir, et ça fait aussi partie des bonnes nouvelles de ce manuel. Un manuel que l'on peut adresser à tout le monde, à toute personne intéressée, que ce soit des professionnels ou non, puisqu'il est écrit d'une manière extrêmement lisible, avec énormément d'exemples qui sont apportés. Je vous propose d'en parler juste après Axel Red.
Au positif,
le dossier.
Martin Desseil, Bernadette Grosjean et Nader Perrou sont les auteurs de ce manuel du Borderline, paru aux éditions Erol. Ils sont tous les trois psychiatres reconnus. Martin Desseil exerce ici à l'université de Namur en tant que professeur, et bien sûr. Et puis Bernadette Grosjean est avec nous depuis les États-Unis, où il est déjà 3h du matin passé. Je le précise parce que comme ça, j'insiste sur l'importance de votre présence dans cette émission, Bernadette Grosjean. Alors, cet ouvrage, en plus, il était extrêmement nécessaire. Il est bienvenu. Parce que vous rappelez d'ailleurs dans le début de l'ouvrage à quel point ce trouble borderline a été parfois même méprisé, méconnu, mal interprété, alors que depuis quelques années, grâce à des psychiatres justement qui se sont véritablement penchés sur la question, on a fait de très jolies découvertes qui ont permis d'expliquer aujourd'hui très clairement de quoi il s'agit quand on parle de trouble borderline et qu'il s'agit vraiment d'une maladie qui peut se guérir aujourd'hui. Et ça, c'est une excellente nouvelle avec laquelle vous commencez dans cet ouvrage. Mais que de chemin parcouru, Bernadette Grosjean, pour en arriver là ?
Oui, en effet, pour le patient, vous voulez dire, et pour sa famille, j'imagine.
Oui,
oui, puisque bon, les problèmes sont importants, sont assez permanents quand on développe ce trouble, cette pathologie. Ce sont des problèmes au niveau de l'émotion, problèmes au niveau du comportement, de comportement impulsif, de comportement souvent self-destructeur ou autodestructeur, et des comportements que l'entourage ne comprend pas, l'entourage y compris les médecins, les psychologues, parfois, qui sont confrontés. Et on avait tendance pendant très longtemps à dire à ces patients, leurs familles sont des gens difficiles, c'est pas vraiment un problème, et de toute façon, il n'y a rien à faire. Et je pense que quand votre message d'emblée est « il y a de l'espoir », c'est fantastique, parce que c'est vraiment le message que nous voulions aussi donner avec ce livre, un outil. Et oui, il y a moyen de s'en sortir. Ça va prendre du temps, ça va être difficile, il va falloir passer par toute une série d'étapes de connaissance de soi, de contrôle de soi, mais on peut tout à fait s'en sortir.
Martin Desseil, c'est vraiment un ouvrage que vous avez voulu apporter à la portée de tous, à la fois effectivement aussi du milieu professionnel, mais des familles, l'entourage, des personnes qui sont aussi elles-mêmes en souffrance par rapport à ce trouble borderline et qui ont parfois du mal aussi à comprendre elles-mêmes ce dont elles souffrent.
Tout à fait. C'est un ouvrage qui se veut un outil, et un outil à la fois clinique, mais un outil grand public de self-help, mais qui ne se substitue pas aux psychothérapeutes, aux médecins traitants et à la famille. Donc c'est vraiment une mise en bouche, si je puis dire, un premier pas, parce que l'identification, la reconnaissance et la compréhension pour soi ou de son proche qui est atteint, on va dire, ou en tout cas qui souffre, puisque c'est ça qu'on veut mettre en avant, mais qui souffre de tous ces troubles, de toutes ces dérégulations émotionnelles, cette reconnaissance de la part des autres et cette identification de « ah, enfin, je peux mettre un mot sur ce que j'ai et je peux le prendre en charge ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de le prendre en charge. C'est important et c'est la première étape.
Alors, on peut comprendre quand même quelque part, si on est objectif, qu'on ait eu difficile à classer des personnes qui étaient en souffrance, que l'on peut aujourd'hui qualifier de borderline. Mais quand on voit ce que caractérise le borderline, la peur de l'abandon, des relations conflictuelles difficiles, la construction d'une identité qui est difficile aussi, des prises de drogue, souvent des comportements d'automutilation, voire suicidaires, des sentiments chroniques de vide, l'impulsivité, la personnalité paranoïaque, et souvent les personnes qui sont atteintes de troubles borderline sont victimes de maltraitance. Alors on peut comprendre quand on voit le package, même si on n'a pas forcément, j'imagine, toutes les caractéristiques du package en soi.
Tout à fait.
Quand on voit le package, on peut se dire effectivement, à un moment donné, on a du mal à faire la différence entre tout et à ne pas se focaliser éventuellement sur un des troubles en particulier.
Tout à fait, c'est une excellente remarque. En fait, le nom même du trouble borderline vient de trouble limite, et c'est une catégorie un peu fourre-tout, hein, oui. dans laquelle on peut voir différents troubles, comme vous dites, un peu hétéroclites de prime abord, où les patients n'étaient pas considérés comme névrotiques avant, ni psychotiques, et étaient un petit peu à la limite entre les deux, donc borderline. C'est utilisé de manière un petit peu galvaudée dans le langage commun. Oui. Hein, on va parler de borderline, quelqu'un qui est à la limite d'un comportement acceptable dans une entreprise, à l'université, à l'école ou dans une famille. Oh, il est un petit peu borderline, sans savoir vraiment que ça regroupe en fait des souffrances bien déterminées dans une partie non négligeable de la population, puisqu'on décrit quand même une fréquence entre 2 et 5% de la population, ce qui est énorme, c'est beaucoup plus que la schizophrénie, par exemple, dont on parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Ça veut dire, Bernadette Grosjean, que beaucoup de borderline ne sont pas identifiés encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'une autre caractéristique, c'est que ces symptômes que vous avez décrits ne sont évidemment pas présents de manière extrême oui. en permanence. Et que le stress, par exemple, peut être un fait qui va augmenter ces symptômes. Et donc, vous pouvez avoir un collègue de travail, quelqu'un, un compagnon, un enfant, un parent qui va fonctionner OK, qui va à son caractère, on va dire, c'est quelqu'un de très sensible, mais sans problème majeur. Et puis, lors d'un événement particulier, peut-être le souvenir d'un traumatisme, la répétition de quelque chose, tous ces symptômes vont exploser et sans que le conjoint ni que l'entourage comprennent exactement ce qui se passe. Et les médecins, à nouveau, ne savent pas toujours bien comment adresser cette difficulté. Et quand on ne sait pas comment adresser un problème, parfois on dit que ce n'est pas un vrai problème. Et donc oui, c'était compliqué à identifier de manière propre et de pouvoir apporter le traitement. Et de nouveau, pouvoir dire « c'est une vraie maladie » dans le sens « c'est pas quelque chose de honteux, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais », parce que c'est souvent une des images de soi-même qu'on peut avoir quand on souffre de problèmes borderline, mais c'est un vrai problème.
Mmh. C'est vrai que toutes les personnes, par exemple, qui souffrent d'automutilation ne sont pas forcément borderline, mais en tout cas, elles ont ce sentiment de honte, quoi qu'il arrive. Il est parfois difficile, du coup, d'en parler à la fois à son entourage et aux autres, y compris avec les autres caractéristiques du trouble borderline, qu'il est parfois aussi difficile soi-même d'identifier, comme la peur de l'abandon. On verra le rôle de l'attachement tout à l'heure, bien sûr. Par contre, une chose qui a quand même permis des avancées assez importantes, et là j'étais très surprise que vous attachiez un paragraphe, un chapitre entier, Martin Lessay, à l'origine, parce que si quelque chose de très difficile à mettre en place, c'est l'origine d'un trouble psychiatrique et à mettre en évidence. Et alors, une des choses qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a à la fois une composante biologique, mais aussi une composante environnementale, et que les deux s'intermêlent, s'entrelacent de manière assez importante. Mais l'imagerie cérébrale, alors c'est un tout petit chapitre, moi ça m'a fasciné, ça vous a apporté quand même de sacrées pistes.
Alors c'est vrai que consacrer tout un chapitre à l'origine, c'est important, parce que c'est la particularité des pathologies, je dirais, psychiques, hein, qui oui. touchent le psychisme, les émotions, les pensées, les comportements, ont qu'elles dépendent vraiment de la période, de l'époque et de la culture dans laquelle elles s'inscrivent. Donc, on peut en retracer l'histoire via des connaissances sociologiques, psychiatriques, à partir du moment où elles se structurent sous forme de pathologie psychiatrique. Et c'est important de pouvoir le faire parce que ça relativise aussi. Tiens, il y a une pathologie, oui, mais qu'est-ce que les soignants font de ces personnes-là ? Oui. Se remettent-ils en question quant à leur propre connaissance ou essayent-ils de comprendre la souffrance d'une souffrance naissante ? Et on peut se dire que oui, dans l'avenir, il y aura d'autres souffrances naissantes dans les sociétés qu'il faudra pouvoir déterminer. Donc l'origine est extrêmement importante. Alors, origine environnementale, oui, alors on l'a dit, oui, maltraitance, mais ça peut être aussi événements chaotiques de vie. On peut penser à...
On parlait de personnalités qui déménagent souvent, qui n'ont pas de structure assise ou de racine assise, des choses comme ça. Voilà. Des personnes qui sont déplacées aussi.
Voilà, des catastrophes naturelles, qu'elles soient volontaires ou involontaires, des déplacements non volontaires ou involontaires, des catastrophes naturelles qui poussent les gens, ou l'incompétence ou l'incapacité d'une personne qui est malade à un moment donné, qui ne sait pas s'occuper peut-être de ses enfants. Donc le message, c'est de dire, oui, il peut y avoir de la maltraitance, mais ce n'est pas toujours une maltraitance dirigée et intentionnelle de la part des parents et des aidants et des personnes entourantes. Donc il ne faut pas que ce soit un message de culpabilisation, c'est parce que tes parents ont été mauvais que tu vas devenir borderline ou que tu es borderline. Donc ce n'est pas ça du tout le message. Donc il peut y avoir une grande souffrance, mais ce n'est pas culpabilisant. Alors l'imagerie cérébrale nous apporte beaucoup d'informations quant au circuit de la régulation des émotions que l'on sait impliqué et au cœur de ce trouble de la pathologie, donc de ce trouble de dysrégulation, donc oui. Des émotions. Les émotions sont soit beaucoup trop fortes, soit beaucoup trop en retrait. Les investissements dans la relation, on parlera tout à l'heure sur l'attachement, sont soit beaucoup trop forts, soit totalement en retrait.
C'est donc, ou tout est noir ou tout est blanc, mais voilà. Pas de nuance, quoi.
Pas de nuance, et les émotions là-dedans explosent bien souvent, en impulsivité, en passage à l'acte autodommageable, on se scarifie, on prend de la drogue, on a du sexe compulsif, ou ce genre de choses-là. Et dans ces circonstances-là, oui, de fait, l'imagerie montre que les substrats neuronaux et cérébraux de la pathologie sont, entre autres, tous ces circuits de régulation des émotions, circuits qui sont communs à la dépression, aux troubles anxieux, puisqu'on n'a qu'un seul cerveau et ça se passe toujours au même endroit quand il s'agit de pathologie naturellement.
Il est très fascinant de voir aussi à quel point l'étude sur l'environnement a été poussée dans des directions très actuelles, très sociétales et très modernes. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout voir dans le livre parce que sinon, il nous faudrait 2 heures d'émission au minimum. Mais on va quand même parler, et c'est le but aussi de cette émission, des traitements que l'on peut, qui sont à disposition aujourd'hui, à la fois les médicaments, mais aussi les thérapies. On en parle juste après ceci.
Au positif sur la première. Au positif de 11h à midi sur la première.
Manuel du Borderline, paru aux éditions Erol avec nos invités du jour. Nader Perrou n'est pas avec nous, mais il est co-auteur de cet ouvrage avec Martin Desseil et Bernadette Grosjean. 3 psychiatres qui sont sur le sujet depuis pas mal de temps et qui nous permettent à travers cet ouvrage de mettre des mots sur la souffrance que ressentent les personnes qui sont atteintes de troubles borderline. On en parle surtout et également parce qu'il s'agit aujourd'hui de prendre en charge le trouble borderline et de donner de l'espoir, puisque ce trouble est parfaitement gérable, voire guérissable, si l'on peut utiliser le terme guérir. Je sais que les psychiatres n'aiment pas hein, quand on dit guérir. C'est un terme qui est un peu laissant, n'aime pas tout à fait. Mais ici, on parle bien quand même de pouvoir aller de l'avant et se construire un avenir en dehors de ce trouble borderline. Pour ce faire, il existe différentes pistes qui ont été produites. Alors Bernadette Grosjean, est-ce qu'on peut dire que c'est de toute façon un peu dans le milieu anglo-saxon que ça a d'abord commencé, qu'on a commencé à voir émerger des thérapies qui pouvaient apporter véritablement un grand bénéfice?
Mais je pense qu'on pourrait dire qu'il y a eu des thérapies qui sont apparues structurées, qu'on a théorisées en livres et en manuels, oui. Et que ça s'est apparu plus dans le monde anglo-saxon. On traitait bien sûr des patients qui souffraient de troubles borderline, qu'on sache que c'était cela le diagnostic ou pas avant. Mais c'est aux États-Unis, en effet, le docteur Kernberg, qui est un psychanalyste au départ, qui s'est rendu compte que le modèle classique de la psychanalyse ne fonctionnait pas bien, oui. Et qui a changé un peu le cadre, si vous voulez, de la thérapie. Et puis, bien sûr, en France, d'autres psychanalystes, d'autres thérapeutes sont intervenus. Mais la deuxième grande vague, c'est alors des thérapeutes plutôt comportementaux, comme Marshall Linehan, qui a défini et écrit un manuel aussi pour une autre approche thérapeutique comportementaliste.
Oui, alors elle est fascinante parce qu'elle est elle-même malade et elle va prendre son destin en charge d'une manière assez exceptionnelle. Alors que franchement, avec ce qu'elle a vécu, je me suis un peu renseignée par la suite sur Internet. Enfin, elle s'en est pris plein la figure pendant des années. Elle a résisté. Et dans cette résistance, elle a trouvé le moyen d'essayer d'analyser pourquoi elle était comme ça, d'y mettre des mots et de trouver des thérapies, des solutions qui s'adaptaient d'abord à elle et puis pour lesquelles elle a remarqué que ça s'adaptait à d'autres aussi. Quoi. Elle est fascinante, cette dame.
Ah, c'est un parcours extraordinaire. Qu'on sache maintenant qu'elle a eu ses problèmes quand elle avait 17-18 ans, puisqu'elle a été elle-même hospitalisée, on lui a presque donné des électrochocs, elle a reçu de nombreux médicaments sans succès. Elle s'est échappée un peu en Inde où elle est allée apprendre la méditation. Et puis elle est revenue aux États-Unis, travailler comme assistante sociale et elle voulait travailler avec ces patients-là. Oui. Mais c'est seulement il y a 2 ans dans le New York Times, c'est peut-être ça que vous avez lu d'ailleurs, où elle a expliqué son parcours et elle dit qu'elle s'est livrée au public, un peu dans sa vulnérabilité. Suite à de nombreux patients lui avaient demandé pourquoi elle faisait ça et comment elle pouvait les comprendre si bien. Elle n'avait jamais vraiment répondu pourquoi ou si elle était dès lors. Et un jour, une patiente, un peu dans la lignée de votre émission, lui a dit « Marsha, est-ce que tu es des nôtres ?» Et Marsha a dit « Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important pour toi de savoir ?» Et elle a répondu « Parce que ça me donnerait de l'espoir. » Mmh. Et elle a décidé alors de faire son coming out, comme on dit, et de définir cela. Maintenant, toutes ces méthodes thérapeutiques La mentalisation, thérapie basée sur la mentalisation qui a été développée aussi en Angleterre par Batman et Fonagy. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir, et j'ai eu la chance de, dans les dernières 25 années d'avoir été formée un peu à toutes ces formats, ces manières de traiter, ont évidemment des points communs énormes. Mmh. La manière dont on va s'adresser à la personne, le cadre thérapeutique, le fait que vous pouvez trouver ces thérapeutes ou pas, là où vous habitez, va influencer votre choix, mais c'est basé sur reconstruire des relations, identifier nos émotions, apprendre à manipuler, à gérer nos comportements, apprendre à rétablir un dialogue. Donc il y a vraiment des points communs de tout cela. Mmh. Et oui, Marsha Linehan est extraordinaire et vous pouvez la voir, d'ailleurs elle a beaucoup de ses cours et de ses conférences sur internet, vous pouvez la voir en direct.
Oui, effectivement, j'invite vraiment les auditeurs s'ils veulent à découvrir cette personnalité étonnante. Parmi les psychothérapies dont on parle beaucoup, il y a la thérapie justement comportementale dialectique et puis le traitement basé sur la mentalisation. Alors, on ne pourra pas détailler l'ensemble bien sûr, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur le fait que ces thérapies qui sont proposées offrent véritablement des outils qui permettent une gestion quotidienne. Alors quand je dis quotidienne, il faut relativiser, hein, parce que, comme on l'a dit déjà, les troubles ne sont pas apparents de manière continue et que souvent ça demande un long temps d'adaptation et de prise en main de ces outils qui sont proposés. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans cette thérapie, il y a des choses très concrètes et que véritablement... souvent, on a besoin de ce concret, à la fois peut-être quand on est en personnalité borderline, mais surtout quand on est dans l'entourage. Et d'avoir des outils concrets, de se dire qu'il y a des choses très concrètes à mettre en place, je trouve que c'est très important. Et ces deux thérapies offrent quand même pas mal de choses.
Oui, tout à fait. Le livre, d'ailleurs, contient pas mal à la fois de questionnaires,
oui,
et puis de suggestions pour le patient, pour son entourage, commencer un dialogue, commencer à discuter de certains problèmes, comment trouver des moyens pour pouvoir se calmer en cas de crise. Et donc, c'est un peu le but. Et encore une fois, ça ne remplacera pas le long travail thérapeutique avec une personne compétente, la construction d'une relation et la découverte de toute une série de choses au travers de cette relation. Le travail thérapeutique prend certainement, je vais dire, un an, deux ans, plusieurs années, et vous allez avoir différentes phases. Il y aura la première phase où on essaie de contrôler, par exemple, les comportements automutilatoires, les tentatives de suicide, et ça, en général, quel que soit le mode thérapeutique, après un an, ces troubles sont sous contrôle. Le travail de se reconstruire ou de se construire une identité, ça va prendre bien sûr plus longtemps. Mmh. Et une dernière petite chose à propos de ces comportements, c'est un message d'espoir. Maintenant, c'est une vraie maladie. 10% des personnes qui souffrent de ce problème vont malheureusement mourir, oui, des conséquences d'un suicide ou d'un acte automutilatoire.
Ça nous donne l'occasion de parler des comorbidités. Pardon. Et ces comportements borderline conduisent à l'apparition de beaucoup de comorbidités qui sont là, alors pour le coup, plutôt pris en charge par des médicaments, Martin Desailly, qui sont à disposition, qui fonctionnent plutôt bien dans ce cadre-là. Alors, on a un arsenal, hein, quand même, d'après ce que je disais, on donne en fonction évidemment des degrés, mais cela dit, ça passe des antidépresseurs aux anxiolytiques, en passant par les stabilisateurs de l'humeur. Donc là, véritablement, on essaye de sortir de cette spirale de la comorbidité qui est quand même assez importante.
Je pense que ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que le traitement du trouble borderline n'est pas un traitement médicamenteux, mais un traitement psychothérapeutique.
Mmh. Et le médicament est une béquille.
Mais le médicament peut être une béquille temporaire à certains moments pour aider. En fonction des comorbidités qui peuvent être vraiment multiples, ça peut être un trouble de l'humeur plus important à un moment donné, ça peut être des consommations de substances plus importantes, ça peut être un trouble d'hyperactivité et un trouble de l'attention. Donc ça peut être vraiment un tas de morbidités. Mais le médicament ne doit pas être le centre de la thérapie, même s'il peut aider. Je vais peut-être lancer aussi la parole à ma collègue outre-Atlantique, où les médicaments sont un débat aussi... très important.
On en donne trop, on n'en donne pas assez, Bernadette Grosjean, c'est quoi le point de
débat? Je pense que quand on n'a pas un outil pour aider la personne et qu'on a 15 minutes avec un patient, comme oui, malheureusement beaucoup de psychiatres ont ici, c'est ce qu'on a tendance à faire, à un peu jeter des médicaments à la tête, à les changer, les augmenter. C'est presque un élément du diagnostic quand quelqu'un vient nous trouver à la clinique et qu'il a toute cette gamme de médicaments que vous avez décrite tout à l'heure à des dosages divers. On a souvent, on l'a pensé comme c'est probablement, il y a une bonne chance que ce soit un patient avec un trouble borderline. On a un peu tout essayé au niveau médicamenteux. alors qu'en effet, la prise en charge est psychothérapeutique. Maintenant, vous avez par exemple 20% des patients borderline qui ont aussi un trouble bipolaire. Trouble bipolaire maniaco-dépressif bien réel, pour lequel là, il doit ou elle doit avoir un traitement médicamenteux. Donc ça complique parfois le tableau. Mais le trouble borderline à proprement parler, effectivement, les médicaments ça aide, c'est une béquille, mais l'équivalent, je vais dire, de la physiothérapie pour votre jambe cassée, eh bien ce sera la psychothérapie.
C'est ça, c'est comme ça qu'on réapprend à marcher.
Voilà, avec cet avantage qu'on peut expliquer aux patients, c'est qu'une fois que vous avez appris ces outils émotionnels et cognitifs, ils sont là, c'est dans votre cerveau. Oui. Vous avez construit vos nouvelles connexions neuronales et c'est, voilà, vous n'en aurez plus besoin. Ça ne peut que continuer de s'améliorer par soi-même ou par d'autres thérapies plus tard.
Alors je vais schématiser très fort et je m'en excuse par avance pour vous qui avez passé tant de temps à écrire justement et à l'écrire tellement bien. Les thérapies qui sont proposées, les traitements qui sont proposés aujourd'hui visent à faire comprendre aux patients borderline que la réalité est complexe et changeante. On parlait du blanc ou du tout noir, c'est faire comprendre effectivement que à la fois dans la vie, dans les relations interpersonnelles et dans sa relation à soi, il y a des nuances et que ces nuances existent et qu'il faut pouvoir les appréhender. Et puis, c'est surtout permettre aussi au patient de se voir tel qu'il est et tel que nous le voyons et plus d'avoir des projections d'images de lui-même qui sont en dehors de la réalité, même s'il les ressent très réelles pour lui-même. C'est presque un réapprentissage de la vie. On parlait de l'importance de l'attachement. Alors, je sais que dans votre langage, vous le cantonnez à une certaine position. Moi, j'ai presque envie de dire c'est l'attachement à la vie aussi et d'extrapoler. C'est vraiment une question d'attachement à tout, quelque part.
Tout à fait, tout à fait. L'attachement est vraiment au centre en fait de ce trouble. Et puis la mentalisation est aussi au centre. Donc si on a vécu des attachements difficiles, par exemple, imaginons un enfant qui pleure et puis sa mère qui ou son père ou le proche aidant à ce moment-là qui n'arrive pas à répondre et à être en phase, l'enfant ne va pas pouvoir apprendre à ce moment-là quelle est cette émotion qu'il ressent, quelle est cette douleur qu'il ressent, et il ne va pas pouvoir lier finalement ce qu'il peut ressentir dans son corps à des émotions. Et c'est extrapoler ça pendant des années, et on peut imaginer le réapprentissage d'attachement, de lien, et qui dit lien dit relation et relation psychothérapeutique pour pouvoir réapprendre tout ça et vivre finalement des expériences émotionnelles qui vont être correctrices et un support pour pouvoir aller de l'avant.
C'est l'attachement à soi, l'attachement aux autres aussi, quelque part, réapprendre à avoir des relations interpersonnelles et surtout réapprendre qu'elles peuvent être bonnes, mauvaises, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et qu'on vit avec, mais que ça fait partie de la richesse des relations. Au fond, oui, c'est ça, c'est réapprendre à vivre ce que nous sommes au mieux de sa personnalité, en acceptant aussi ses bons et ses mauvais côtés. Cela dit, on l'a dit, le processus de guérison est quand même long et qu'il faut accepter aussi cette longueur avec, j'imagine, des rechutes éventuelles, Martin Desailly. Ça ne se fait pas en quelques coups de cuillère à peau.
Tout à fait. Donc, il y a des rechutes éventuelles. La rechute fait partie intégrante, je dirais, du processus de guérison, puisque les personnes vont expérimenter elles-mêmes les outils. Un outil, ça va permettre de diminuer la souffrance. Ça n'efface pas la souffrance. On ne gomme pas une vie, parce que sinon, ça reviendrait à dire, on vous transforme complètement, on gomme votre vie. Et non, tout ce qui a été vécu, vont être des choses sur lesquelles aussi les patients peuvent s'appuyer. Et c'est cette extraordinaire force de changement qu'on va appeler de résilience et de résistance, donc de résilience, de sursaut par rapport à cette adversité qu'ils auront vécue avec des atrocités parfois dans leur vie personnelle ou qu'ils se seront fait subir en s'automutilant. Malgré ça, donc cette résilience va faire en sorte qu'ils vont pouvoir être à même de pouvoir reconsidérer les choses, repenser les choses, revivre de manière émotionnellement différente ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien.
Alors, on a juste une question que je voulais aborder parce que le reste a été abordé par rapport à ce que les auditeurs voulaient apporter dans l'émission, on l'a abordé, mais comment annoncer à une personne qu'elle est borderline quand on sincèrement qu'elle est borderline?
Je peux laisser Bernadette répondre. Sinon
oui,
je...
Bernadette.
Oui, eh bien, bien sûr. D'abord, je pense que c'est important de savoir que c'est une bonne chose de pouvoir annoncer à quelqu'un son diagnostic, de mettre un nom sur les souffrances, à condition, bien sûr, qu'on le fasse de manière correcte, c'est-à-dire pas ce qui se passait pendant beaucoup d'années. Oh, c'est un trouble, est à limite borderline. Il n'y a rien à faire. Oui. Mais maintenant, avec ces outils dont nous disposons, encore une fois, par les livres, par Internet, par les sites de soutien, par patients et familles, quand ça m'arrive en bureau de consultation, après, en hésitant bien sûr, parce que j'aime pas donner une étiquette, mais de proposer ce diagnostic à la personne en lui expliquant en quoi ça consiste, comme on l'a fait pendant cette émission, eh bien, j'ai envie de dire que presque à 100% des cas, peut-être 99%, la personne est soulagée. Parce qu'enfin, on met un mot sur quelque chose qui était là depuis tellement longtemps, qui avait été souvent mal diagnostiqué, donc la personne ne pouvait pas se reconnaître. Et quand on donne cette explication et qu'on dit qu'en plus on a un traitement extrêmement important, c'est un soulagement. C'est vraiment un soulagement. Donc évidemment, encore une fois, l'entourage, savoir qu'il y a des moyens de traiter est essentiel. Et des études avaient été faites d'ailleurs aux États-Unis à McLean. C'est un grand centre pour l'étude des états limites borderline. Oui. Et ils avaient montré que dans la grande majorité des cas, annoncer le diagnostic entraîne un soulagement.
C'est vrai que mettre des mots, et c'est ce que vous proposez aussi hein, avec cet ouvrage, mettre des mots sur la souffrance, venir en aide à la famille ou à l'entourage, les aider à traverser, c'est l'objectif de ce manuel. Et puis vous avez créé un site qui s'appelle www.etalimite.com, etalimite en un seul mot, c'est un site de partage, Martin Desailly, c'est ça?
Donc c'est un site d'information sur le livre dans lequel de fait les personnes, les visiteurs du site peuvent laisser des témoignages, des commentaires, des suggestions, et on pourra leur faire des réponses groupées via le site, donc ce n'est pas un forum dans lequel les gens peuvent interagir, mais c'est un site d'information. Il y a différentes ressources, différents sites des auteurs, donc les sites personnels des auteurs, des sites de spécialistes sur le sujet, des vidéos à voir. Donc c'est vraiment un site de support qui vient en plus du livre.
Manuel du Borderline, Martin Desailly, Bernadette Grosjean, Nader Perrou sont les auteurs, c'est paru aux éditions Erol. Bernadette Grosjean, merci beaucoup d'être intervenue. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui en restent. Vous laissez vous reposer un peu. Merci également, Martin Desailly, d'être venu jusqu'ici. On vous souhaite bon retour jusqu'à l'Université de Namur où vous exercez. Je ne l'ai pas assez dit.
Et
puis,
je vous remercie.
Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, je vous propose de parler d'autre chose. C'est un livre qui vient d'être édité aussi. C'est un témoignage. Sa vie a basculé en 20 secondes. En 2003, elle est victime d'un AVC et quelques années après, ouf, pas mal de temps après d'ailleurs, elle témoigne de son expérience, de son retour à la vie, comme elle le dit aujourd'hui dans cet ouvrage. 20 secondes et tout bascule. C'est paru aux éditions Méhari. On vous présente ce livre juste après ceci.
Au positif, la perf du jour.
Je voudrais vous parler d'un ouvrage, il s'appelle 20 secondes et tout bascule, c'est paru aux éditions Méhari. C'est l'histoire de Marie-Paul Faith Davin qui témoigne de sa propre histoire. En 2003, tout s'arrête pour elle, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle mettra des années à revivre, aujourd'hui encore. La chose est un peu difficile. Difficile pour elle de s'exprimer. C'est pour cela qu'elle a choisi de mettre en mots dans cet ouvrage son expérience, sa reconquête de la vie aussi. C'est un ouvrage plein d'émotions, mais surtout plein d'espoir. C'est une femme vigilante, une femme attentive, attentive à elle-même, attentive aux autres aussi. Et c'est ce qu'elle nous explique dans son ouvrage « 20 secondes et tout bascule » que je vous conseille de lire. Marie-Paul aurait voulu être avec nous, bien sûr. Elle aurait préféré sans doute être avec nous. Et quand on lui demande pourquoi elle écrit cet ouvrage, elle nous dit que pendant longtemps, elle a cru qu'elle allait devoir rester en centre et être une patiente à longueur de vie. Et qu'aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'est pas seulement une patiente, mais qu'elle est une personne. Et que cette personne, elle l'a reconstruite pendant 9 ans. Et c'est ce combat de 9 ans qu'elle veut livrer dans cet ouvrage. Un combat très, très courageux, plein d'émotions, comme je le disais, mais surtout plein d'espoir. Un espoir aussi qui s'exprime à travers des vidéos qu'elle a réalisées avec Aline Moons pour les ateliers Grafouille. Je vous livre un extrait de ces vidéos. Ce sont des récits choisis du livre en question. On parle ici de la voix.
Lorsqu'on entend ma voix traînante, déformée, on a encore des difficultés à comprendre, malgré ma prononciation très lente. Or, me faire comprendre m'impose une concentration maximale, même pour des choses futiles appartenant à la vie quotidienne. Ma nouvelle voix tremblotante provient de l'accident cérébral et non, comme je le pensais, d'une conséquence des dégâts causés par la trachéotomie. L'hémorragie qui s'est développée au cœur du cerveau, dans le mésencéphale, ne permet pas à certaines connexions neuronales de se faire. Cela mettra donc beaucoup de temps, car tout acte prend du temps.
Et le temps, il y en a fallu 9 ans donc pour écrire cet ouvrage que je vous conseille, 20 secondes et tout bascule, paru aux éditions Méhari, par Marie-Paul Feuille-Davine. Un ouvrage plein d'espoir et d'optimisme, parce que Marie-Paul est d'une personnalité extrêmement optimiste, et donc à partager avec vous, et c'est vendu au profit d'Handicap International.
La première, podcast.